Tu vois, Dominique, ça me fait tellement plaisir que tu me demandes comment j'utilise le modèle. Ça fait une dizaine d'années que le modèle OPT m'inspire vraiment. Qu'est-ce que j'aime de ce modèle-là? Comme tu peux le voir, c'est qu'il est très visuel. Donc, ça permet vraiment de notre démarche de soins qu'on enseigne aux étudiantes habituellement. Ils voient en un coup d'œil. Puis ça, je trouve que ça rend concret notre démarche, puis qu'est-ce qu'elles vivent, par exemple, comme en stage. Je pense que tu me disais que tu accompagnes bientôt des étudiantes en stage.
Justement, je pars en stage avec un groupe d'étudiantes. C'est mes premières journées de stage, puis c'est des étudiantes qui sont assez novices. C'est leur deuxième année de cours en soins infirmiers. Fait qu'elles ne sont pas très familières avec la démarche de soins. Puis elles ont pas toujours le goût. Elles aiment pas tellement ça.
C'est une belle constatation que tu fais parce que dans le fond, les étudiantes deviennent tellement préoccupées des soins qu'elles ont à faire puis de l'environnement social, tout ça, que souvent la réflexion peut être. On a moins l'occasion de pouvoir réfléchir puis de s'asseoir avec nos étudiants. Donc, dans le feu de l'action, on peut utiliser une feuille brouillon, un crayon plan, un stylo, puis tu t'assois avec l'étudiant sur le coin au poste. Et. Comme tu le vois, comme il est représenté dans l'outil éducatif sur le site web, tu as un dessin qui se lit de droite à gauche. Je fais rapidement le tour du dessin. À droite, c'est l'histoire du client. L'histoire du client, on tente d'en dégager les points principaux. Donc, l'étudiant est fasciné puisque comme il a un patient assigné en stage, il a déjà en tête l'histoire d'un client cette journée-là. Donc, il peut facilement te nommer les grands éléments qui concerne ce patient-là, les données pertinentes. Puis, ce que j'apprécie faire avec l'étudiante, c'est de lui faire nommer l'enjeu prioritaire qu'elle croit. Même que je lui en fais nommer deux ou trois. Donc, c'est une occasion d'échanger ensemble puis de savoir qu'est-ce qu'elle prioriserait.
Ça serait quoi, par exemple, les enjeux prioritaires une étudiante pourrait être nommée?
Ben, j'aime beaucoup prendre l'exemple d'un patient qui est en chirurgie, qui est suite à une chirurgie, post-chirurgie, je m'excuse. Puis, cet étudiant-là, par exemple, ça pourrait être la douleur post-chirurgicale. Donc, mais est-ce que c'est la douleur post-chirurgicale ou, par exemple, la constipation qui serait le plus prioritaire des deux? Donc, on peut discuter à partir de l'histoire du client et de ce qu'il a comme soin de l'enjeu prioritaire à régler au niveau des soins infirmiers.
Est-ce qu'on pourrait ajouter là-dedans, par exemple, un client qui refuse de se lever?
Tout à fait. Donc, on entre plus dans une perspective de mobilisation, d'activité physique. Donc, de là l'importance, Dominique, du carré juste à côté où on voit que c'est marqué théorie, cadre notionnel. Donc, ce que l'étudiante a en tête, que ce soit implicite ou explicite, pour regarder la réalité, regarder l'histoire de ce patient-là, est vraiment un enjeu fondamental. Donc, on peut amener l'étudiante à réfléchir, par exemple, est-ce que tu utilises un modèle qui est personnel à toi pour regarder l'histoire du patient? Ou encore, est-ce que tu utilises les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson? Toi, quel modèle t'aimes utiliser avec tes étudiantes pour regarder la réalité des collectes de données?
Ou le modèle McGill, probablement, qui est quand même assez utilisé dans les milieux d'enseignement puis au niveau communautaire.
Donc, l'avantage du modèle OPT, c'est que peu importe le modèle théorique avec lequel on travaille, c'est adéquat pour. On peut, dans cette boîte-là représente des lunettes, un regard que l'étudiante peut adopter sur l'histoire du patient. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir placer le modèle théorique que l'on souhaite, mais à la limite le modèle implicite. Donc, vous voyez les belles discussions que ça peut amener avec nos étudiantes sur comment elles posent un regard sur l'histoire du client.
J'imagine qu'on peut aussi faire ces discussions-là en post-clinique, en groupe avec les étudiants, puis choisir un cas d'une seule étudiante, puis le partager dans le groupe.
Quel beau moyen de faire un post-clinique. Et même, je te dirais, on peut l'utiliser en classe lors d'enseignement théorique. C'est vraiment. On peut vraiment l'utiliser dans plusieurs contextes, mais le stage, c'est le summum, justement pour ramener la réflexion dans l'action. Donc, pour terminer le modèle, on voit la grande boîte tout à côté, c'est le contexte. Donc, en anglais, ils disent « framing », donc le contexte de la situation. Exemple, si je reviens à notre douleur post-chirurgicale, le contexte, c'est le fait d'être en post-op. Par contre, si on était face à une douleur, mais dans un contexte de soins palliatifs, cela nous amènerait à porter un regard tout à fait différent sur l'état actuel, sur l'état désiré, sur comment on va faire nos soins, puisque le contexte est tout à fait différent. Donc, le contexte, c'est juste dans quel contexte de travail, dans quel contexte de vie le patient se trouve. Par exemple, est-ce qu'on est dans des soins physiques? Est-ce qu'on est dans des soins psychiatriques? Des soins de fin de vie? Donc, ce sont des contextes qui permettent d'aller prioriser certains objectifs. Pour voir la fin du modèle, on remarque les deux grands ovales qui se retrouvent au centre du contexte. Celui de droite, c'est l'état actuel. Donc, ce qu'on appelle, c'est un peu notre lecture actuelle de la situation en fonction de l'enjeu prioritaire qu'on a identifié. Et tout ce modèle-là tire ou projette l'étudiante vers l'idée d'un état à atteindre, d'un résultat qu'on souhaite atteindre par nos soins infirmiers. Donc, c'est comme au lieu de penser en termes de problèmes ou de s'arrêter en termes de diagnostic infirmier, on pousse la pensée de l'étudiante à regarder vers le futur et vers les résultats de soins escomptés où elle va en arriver avec le patient.
J'aurais une petite question. L'enjeu prioritaire, est-ce qu'il est décidé en collaboration avec le patient? Ou c'est l'étudiante infirmière ou l'infirmière qui va cibler l'enjeu prioritaire?
Quelle belle question! Tu vois, Dominique, quand je te dis que ça nous amène à pouvoir avoir des échanges intéressants sur l'étudiante, avec l'étudiante sur notre processus de pensée et sur nos manières de faire, tu viens d'en nommer un exemple parfait. Justement, ça permet de soulever, quand on regarde l'histoire du client, donc la boîte de droite sur le modèle, si on le fait de manière solitaire ou en partenariat avec le client, cette détermination des objectifs prioritaires.
Ou en partenariat avec l'équipe, si on est dans un contexte de soins palliatifs.
C'est vraiment un modèle souple. Tu as raison. Donc, pour en revenir à l'état désiré, c'est nos objectifs de soins. C'est le O de ce fameux modèle-là, O pour outcome, donc les résultats qu'on désire atteindre. Donc, si on reprend l'exemple de la douleur post-chirurgicale, l'état actuel, par exemple, c'est la douleur qui serait à 9 sur 10, évaluée subjectivement avec une échelle. Et l'état désiré serait soit l'absence de douleur ou encore une diminution de la douleur, par exemple, à 2 sur 10, pour être réaliste peut-être en post-op. Et donc, on se projette, on sait vers où on veut aller. Et on doit amener l'étudiante à réfléchir sur comment elle va mesurer, comment elle va regarder la réalité, observer ce qu'elle va utiliser comme outil pour mesurer, pour voir s'il y a une progression vers cet objectif-là. Donc, c'est là qu'on voit sous les deux ovales la question du test ou des moyens de mesure. Par exemple, comment t'enseignes à tes étudiantes de vérifier s'il y a une baisse de la douleur dans un contexte de post-op, Dominique? Moi, par exemple, j'utilise l'échelle subjective, quoi d'autre?
L'échelle de douleur.
L'échelle de douleur. On peut prendre les signes vitaux, regarder s'il y a des signes de diaphorèse, si le cœur bat plus rapidement, etc. Est-ce que toi, tu utilises autre chose ou c'est pas mal ça?
Ben, pour les étudiantes, à ce niveau-là, c'est pas mal les premiers outils avec lesquels elles sont exposées.
Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas jamais besoin d'être complexe. On peut enseigner des choses simples. Et les étudiants comprennent bien qu'il est nécessaire de mesurer vers où on se dirige en termes de soins. Pour compléter le modèle, en fait, c'est qu'en dessous, on voit la boîte où l'étudiante, devant les soins qu'elle a à faire auprès de ce patient-là, a des décisions à prendre. Elle, donc, doit mettre un ensemble d'interventions en place. Et ça, c'est la boîte de la décision. Des interventions. Fait que tout ça se conclut sur la gauche par le jugement clinique. Le jugement clinique, c'est, dans le fond, est-ce que j'ai atteint l'objectif que je souhaitais désirer avec le patient ou non? Est-ce que cet objectif-là a été atteint partiellement, complètement ou pas du tout? Donc, si c'est un oui, ben on voit la boîte un peu plus bas à gauche, on peut retourner vers d'autres besoins prioritaires du client et régler les autres. Hein. Ça se fait naturellement comme ça. S'il est non résolu ou partiellement résolu, ben là, ça nous ramène vers la boîte du haut. Et la boîte du haut, C'est là qu'est la magie et c'est là que ça dépasse notre fameux plan de soins habituel. C'est qu'on insère des éléments de pensée critique, donc nos stratégies pour être efficaces et prendre de bonnes décisions, et aussi on insère des stratégies de pensée métacognitive. C'est sûr que c'est des domaines très complexes, mais moi j'aime le résumer pour les étudiantes en leur disant c'est penser au sujet de ta manière de penser. Voici les exemples. Par exemple, voyez, de ce grand rectangle-là au-dessus, part toutes sortes de petites flèches vers l'ensemble du modèle. Et c'est là qu'on peut amener l'étudiante à dire, est-ce que tu avais, par exemple, si on prend la boîte de droite, est-ce que tu avais toutes les données nécessaires? Est-ce que l'enjeu prioritaire a bien été identifié? Ensuite, ton cadre théorique ou ta manière de regarder ce patient-là, est-ce qu'elle était adéquate en fonction du travail et des données que tu avais à faire? Est-ce que l'état actuel a été bien identifié? Est-ce que l'objectif que tu souhaitais atteindre avec ton patient était réaliste, mesurable, spécifique? Est-ce que les moyens pour en faire la mesure étaient adéquats? Est-ce que les interventions réalisées? Donc, on voit, on peut faire un retour avec l'étudiant sur l'ensemble de ces moments de démarche-là. Mais c'est sûr, pour quand même souligner des aspects peut-être un peu plus critiques face à ce modèle-là, c'est sûr qu'il ne réinvente pas la roue. C'est quelque chose qu'on fait déjà avec nos étudiantes, mais Dominique, ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça le rend visible et c'est une occasion d'échange extraordinaire avec les étudiantes parce qu'ils peuvent, avec cette image-là, être dans la chambre du patient puis avoir ça en tête, cette démarche-là. Et voilà, moi, pourquoi je l'apprécie vraiment.
Je te remercie, Gilles, pour ta passion, pour ce modèle. C'est vraiment... ça donne le goût de l'utiliser. Alors, c'est possible d'aller chercher plus d'informations sur le site?
Oui, en fait, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Il y a quelques articles qui ont été mis sur le site web. Et peut-être un bon point de départ, c'est l'article de... Pézout et Hermann, qui date quand même de 1998, mais le modèle traverse le temps, et justement, j'ai parlé dans la dernière année, puisqu'on faisait ce bon travail-là pour rendre accessible le modèle aux enseignants, aux enseignantes. C'est un modèle qui est encore utilisé aujourd'hui, puis qui pour moi est une petite perle. T'en penses quoi?
Ah ben, je suis emballée, ça me donne le goût d'aller lire encore plus.
Ben voilà. Je te souhaite un vraiment beau stage avec tes étudiants.
Merci beaucoup.